C'est une histoire digne d'une série télé. Le personnage principal s'appelle Samantha Avril. Elle a 38 ans et elle possède un talent assez unique, celui de jouer des rôles de composition très, très réalistes. Elle vient d'être démasquée après s'être fait embaucher dans une école primaire du Rhône comme institutrice, mais elle n'avait aucun diplôme, une pratique qu'elle maîtrise parfaitement. En 2020, elle avait exercé près de 4 mois comme médecin dans une maison de santé. Deux de ses patients en sont peut-être morts. Le décryptage, l'explication dans un instant, mais d'abord, les derniers éléments avec Elisa Tran.
Pour ses parents d'élèves, la nouvelle remplaçante de l'école avait l'air d'une enseignante comme les autres.
Elle a continué à faire les cours qui lui avaient été donnés, en fait.
Alors, ils sont tombés de haut en apprenant que l'institutrice de leurs enfants était en réalité une aide-soignante en liberté conditionnelle.
Nous avons découvert la supercherie au moment où nous avons reçu le casier judiciaire.
La fausse maîtresse s'appelle Samantha Avril et elle n'en est pas à son coup d'essai. Falsifier son parcours, acheter des diplômes à moins de 200 euros sur Internet, Samantha Avril a usé de ses méthodes pendant une décennie pour trouver du travail. De surveillante dans un lycée, elle devient ainsi infirmière scolaire sur son CV. L'année suivante, elle est recrutée comme professeure stagiaire, puis elle cherche à s'installer comme infirmière libérale. Là, l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté repère plusieurs anomalies. Une première procédure judiciaire est lancée en 2019. Mais pas de quoi faire trembler Samantha Avril. Elle va même encore plus loin et réussit à se faire inscrire à l'Ordre des médecins de Saône-et-Loire en un seul entretien.
Je lui ai posé quelques questions sur la déontologie, le secret médical, etc. Elle me paraissait connaître correctement la déontologie médicale.
Le 11 mai 2020, l'usurpatrice est embauchée comme médecin généraliste dans ce centre de santé de Montceau-les-Mines. Pendant 5 mois, elle berne une patientèle de plus d'un millier de personnes. Jusqu'à ce que ses collègues de travail découvrent la supercherie. Le 23 septembre 2020, la trentenaire est interpellée à son domicile, puis placée en détention provisoire à Dijon. Deux familles de patients décédés portent plainte contre la fausse médecin. Malgré toutes ces accusations, elle est remise en liberté sous contrôle judiciaire en janvier 2021 et recommence à postuler à des fonctions médicales ou dans l'enseignement, comme le montre son embauche récente à l'école de Tapenade. À son avocat, elle a confié qu'une voix lui intimait d'être médecin. Atteinte de schizophrénie, elle souffre d'une altération du discernement.
Alors, on va essayer de revenir sur ce parcours assez incroyable, sur cette pathologie aussi dont elle souffre, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière tout cela avec nos invités. Aude Barietti, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Figaro. Estelle Dossin, bonjour. Bienvenue. Vous êtes psychologue clinicienne. On a besoin de vos lumières pour comprendre évidemment le mécanisme qui conduit à cela. D'abord, ça va pas être facile. Elle a incroyable, un talent, je disais, quasi incroyable, cette femme. Comment elle arrivait à berner son monde, à acheter des faux diplômes, à avoir cette espèce de charisme qui faisait qu'on l'embauchait.
Alors un talent, je ne sais pas si on pourrait parler de ça, peut-être plutôt une pathologie, on verra ça tout à l'heure, mais en tout cas, en effet, des faux diplômes en série, et puis plusieurs, à la fois pour devenir infirmière, à la fois pour devenir médecin, à la fois pour tenter d'entrer dans un INSPE, c'est un institut national supérieur du professorat et de l'éducation, pour devenir prof, et à la fois un faux diplôme pour pouvoir postuler en tant que prof contractuel dans l'Académie de Lyon. Donc vraiment des faux diplômes en série.
Qu'elle achetait sur Internet, c'est ça?
Alors c'est toutes sortes de, il y en a aussi un que potentiellement elle a usurpé de sa propre belle-fille qui porte donc son nom et elle aurait changé le prénom. Enfin c'est vraiment toute une série, tout un mécanisme quand même particulier. Et son avocate d'ailleurs me confiait que elle-même ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle faisait ça et pourquoi est-ce qu'elle pouvait pas s'empêcher de recommencer.
Comment elle a été démasquée là dans cette école du Rhône?
Alors en fait ce qui s'est passé c'est que les parents d'élèves et puis ses collègues ont eu vent d'une autre affaire qui a eu lieu justement dans cette INSPE, l'Institut National de Supérieur Professeur à Formation, etc. Parce qu'elle avait tenté de s'inscrire avec un faux diplôme. L'Université de Bourgogne a dit pas question puisqu'ils s'en sont rendus compte. Ils ont déposé plainte. L'affaire, évidemment, a été médiatisée dans les médias locaux, etc. Et puis là, les collègues et les parents d'élèves se sont rendus compte qu'il y avait un problème.
Estelle, on est bluffé, j'ai envie de dire, par ce que je disais, ce talent, évidemment, à mettre entre guillemets, cet aplomb pour réussir à convaincre les gens que finalement, on est médecin et qu'on peut ouvrir son cabinet le matin, recevoir des gens, aller dans une école et donner des cours.
Oui, alors vous disiez tout à l'heure que ça va être difficile d'évoquer ce sujet, et bien vous savez pas à quel point, parce que figurez-vous que c'est la mythomanie, c'est un peu l'angle mort, enfin c'est un des angles morts de la psychiatrie moderne, c'est-à-dire que depuis 1905, il y a très peu d'études qui ont été faites sur cette pathologie. Donc c'est un terme qu'on doit à un psychiatre français qui s'appelle Ernest Dupré, et qui a identifié 4 formes, 4 profils de menteurs pathologiques. Donc il y a le vaniteux, l'errant, le malin et le pervers. Donc, je ne sais pas dans quelle catégorie se situe Samantha Avril. Je pense que les expertises nous le diront. Pour autant, il est important de distinguer la mythomanie du mensonge. Le menteur a parfaitement conscience de ce qu'il fait, puisqu'il y a une intention derrière, de dissimulation, essentiellement. Le mythomane est dans la compulsion, c'est-à-dire que ça correspond à un profil psychologique, une organisation psychologique. C'est symptomatique, ça peut s'inscrire dans un autre tableau, à part celui de la psychose, auquel cas on parlerait de délire. Pour autant, c'est quand même un fonctionnement pathologique, et donc c'est ça qui pousse à la compulsion. Le mythomane ne peut pas s'empêcher de l'être.
Mais Estelle Dossin, un mythomane, ça s'invente une vie, ça peut la raconter à ses collègues de travail, ça peut raconter sa vie au bistrot, au restaurant. Mais un mythomane, ça passe pas forcément à l'acte, comme elle est passée à l'acte, en s'inventant une vie de médecin, une réalité d'ailleurs, hein, puisqu'on l'a cru, l'ordre des médecins l'a cru. Hein. En même temps, on vit dans un monde pressé, hein, où on manque de médecins et surtout...
C'était période de Covid, hein, peut-être ça vaut le coup d'éclairer peut-être ce point avant de laisser répondre Estelle. Oui. Si elle a été embauchée comme médecin, on nous dit c'était la période du Covid, effectivement, on a vérifié à distance, c'est ça, ça a été un peu rapide.
Alors, moi je peux surtout parler pour ce qui vient de se passer, c'est-à-dire pour ce qui s'est passé au rectorat de Lyon. Le rectorat de Lyon dit non, ce n'est pas parce qu'on avait absolument besoin de contractuels qu'elle a été embauchée si vite. En revanche, le rectorat est bien obligé de reconnaître une erreur, c'est qu'on l'a laissé enseigner sans avoir reçu son B2, donc son extrait de casier judiciaire, sur lequel il y avait marqué qu'il avait déjà été condamné.
Encore une fois, parce qu'on est pressé, parce que l'éducation manque d'enseignants, parce que la médecine manque de médecins, donc ça va très vite. Mais donc, alors, je termine sur la mythomanie, ok, mais le passage à l'acte.
Alors, ça dépend du profil. Là, c'est le point commun entre ces deux passages à l'acte en ce qui concerne Samantha Avril, c'est l'opportunisme. C'est-à-dire qu'elle avait des vagues connaissances médicales en étant aide-soignante elle-même. Elle en a profité pour investir la sphère médicale. Et puis, effectivement, comme le dit Aude, le côté... enseignement, ça traduit quand même une pénurie. Enfin, ça vient résonner avec une réalité. Aujourd'hui, les écoles manquent d'enseignants et qu'on fait appel à des personnes qui ne sont pas diplômées et qui vont être suppléantes pour quelque temps. Donc là, il y a vraiment un opportunisme de la part de Samantha.
D'ailleurs, l'avocate me l'a dit. Hein, elle m'a dit oui, Samantha a entendu parler du fait qu'il manquait d'enseignants et c'est aussi ça qui l'a dirigée vers cette voie-là.
Est-ce que l'avocate vous apporte des éléments de réponse? On lit plein de choses, évidemment, un peu différentes. Notamment qu'elle avait une envie d'aider, en fait. Et c'est vrai que médecin, institutrice, ça peut partir d'un bon fond, entre guillemets.
C'est vrai que l'avocate, on sent que Samantha Avril elle-même, comme elle ne sait pas très bien, ne comprend pas très bien son comportement, c'est encore un peu difficile. Et d'ailleurs, l'avocate, Maître Gagnard, elle a demandé une expertise, un complément d'expertise psychiatrique pour en savoir plus sur vraiment l'état psychiatrique de sa cliente, qui est suivie depuis 2012 en psychiatrie et qui prenait des psychotropes importants.
Et qui entend des voix.
Ah, alors ça, il faudrait voir avec le psychiatre en question.
Alors, on a lu qu'elle entendait des voix et que ces voix lui demandaient d'aller soigner, d'aller sauver des gens, d'où infirmières, d'où médecins.
Ça peut être un ressort, ça.
Les enfants.
Alors, je peux pas me positionner là-dessus. Je n'ai moi-même pas rencontré Samantha Avril. Pour autant, quand on parle d'action de mensonge et qu'on entend des voix, on est du côté de la psychose. Là, ça rend du délire et ça remet en question la responsabilité de Samantha vis-à-vis de ses actes. D'un point de vue psychologique, je pense que c'est un cas... À l'aune de ce que je connais de la situation, je pense que c'est plus un cas de mythomanie. La question du délire, peut-être un argument d'avocat, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont deux pathologies complètement distinctes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre.
Pour rebondir sur ce que vous disiez, dans une affaire précédente, celle pour laquelle elle a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis, pour s'être fait passer pour une infirmière. D'ailleurs, l'altération du discernement avait été retenue par le juge. Ce sera intéressant de voir dans ce qui va suivre. Là, évidemment, peut-être une convocation, les plaintes ont été déposées, donc on va voir s'il y a une mise en examen, des choses comme ça. Là, évidemment, l'avocate a tout intérêt, et d'ailleurs elle va le faire, à demander un complément d'expertise psychiatrique pour savoir si sa cliente est responsable ou non de ses actes.
Est-ce que c'est une partie de la réponse à la question que je voulais vous poser? Comment se fait-il qu'en janvier 2021, elle sorte de prison comme ça? C'est l'altération du discernement qui fait que, pour les deux malades qui sont décédés, alors qu'elle était médecin et qu'elle a demandé à l'un d'eux, il y a M. Gauthier, M. Blatmic, de cesser de prendre une prescription que lui avait donnée le médecin.
Des médicaments pour la tension,
voilà,
et ce monsieur avait de la rétention
la mort, qui a peut-être provoqué la mort. Comment se fait-il qu'elle soit sortie comme ça, au bout de 4 mois, et puis qu'elle vive sa vie et qu'elle aille faire médecin, faux prof après avoir été faux médecin?
C'est vrai que c'est le principe de la libération sous contrôle judiciaire. Et comme elle a violé son contrôle judiciaire, d'ailleurs, elle est repartie derrière les barreaux.
Mais les deux décès, Aude.
Alors, les deux décès, pour l'instant, il y a des enquêtes en recherche des causes de la mort qui sont menées là-bas pour essayer de voir justement si le décès de ces deux personnes a un lien ou non avec son activité illégale de médecin. Est-ce qu'elle aurait provoqué ça en étant faux médecin? Pour l'instant, elle est mise en examen plutôt pour exercice illégal de la médecine, blessure involontaire, mise en danger de la vie d'autrui.
Ce qui est intéressant dans toutes ces alertes, c'est qu'il y a eu des alertes, elle a été condamnée, elle était donc suivie. C'est très difficile à soigner, à accompagner, à stabiliser quelqu'un qui souffre de telles pathologies.
Alors absolument. Là, ça rentre dans un cadre judiciaire, donc j'imagine qu'elle avait une injonction de soins pour pouvoir sortir. Mais c'est pas souvent le cas, parce que la particularité du mythomane, c'est qu'il n'a pas conscience de ce qu'il fait, à l'inverse du menteur. La seule catégorie de mythomanie où il y a une légère conscience de l'acte, c'est quand on cherche un gain, et c'est notamment les grands escrocs qui vont mentir et manipuler pour obtenir quelque chose de leur mensonge. Typiquement, c'était Christophe Rocancourt. Mais des profils vraiment mythomanes, comme c'est peut-être le cas, je ne sais pas pour cette dame, sont effectivement difficiles à prendre en charge parce que tout simplement, ils ne viennent pas voir de psy. Leur situation ne leur pose pas de problème.
Ce que vous dites, c'est fascinant parce que je pense que tous ceux qui nous regardent se disent comment peut-elle n'avoir aucune conscience qu'elle postule comme prof, qu'elle achète un faux diplôme? On a du mal à imaginer qu'elle ne puisse avoir aucune conscience de ce qu'elle fait.
Alors bien souvent, c'est un symptôme qui s'inscrit dans un syndrome de stress post-traumatique. On observe que les personnes qui souffrent de mythomanie ont en commun d'avoir été exposées à un violent traumatisme dans l'enfance. Imaginez, là on est entre nous, on discute, tout à coup il se passe quelque chose et vous vous retrouvez entièrement nu devant nous. C'est extrêmement gênant comme situation, c'est violent, c'est brutal, il n'y a aucune raison. Votre réflexe, si vous avez la possibilité, c'est de vous cacher par pudeur. Psychiquement, le mythomane, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il est exposé à un traumatisme, ça peut être un accident de voiture, peut être n'importe quoi, une agression à personne, ça peut être n'importe quoi. Et son inconscient va prendre la première couverture qui lui tombe sous la main pour se protéger. Et cette couverture, ça va souvent être une couverture rose, et ça va être une couverture qui va masquer la réalité. Pour faire quoi? Pour se protéger. Et ça donne deux choses. Ça donne qu'il n'y a pas eu de mentalisation, c'est quelque chose qui est inconscient, c'est de l'ordre du réflexe. Et surtout, quand on utilise un mécanisme de défense qui fonctionne, eh bien, on n'a aucune raison de le changer. Le problème, c'est que comme cet événement arrive de manière précoce, et c'est souvent le cas entre 5 et 7 ans, la période où les enfants affabulent, ce qui n'a rien à voir avec la mythomanie, mais c'est une période où les enfants aiment l'imaginaire, ils aiment parler, ils maîtrisent leur appareil phonatoire, donc ils adorent raconter plein de trucs. Mais quand ça se produit à ce moment-là, il y a une espèce de confusion, un carrefour comme ça, où il y a l'événement, la capacité d'imaginer des choses et ce mécanisme de défense très solide qui va venir pour protéger.
Passionnant. D'un mot, qu'est-ce qui va se passer pour elle ?
Alors là, grande question, pour l'instant elle est chez elle, apparemment elle va très mal, elle pleure beaucoup, elle va voir son psychiatre la semaine prochaine. Il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées à la fois par le rectorat de Lyon, l'université de Bourgogne, l'université Lyon 1 aussi, puisque un des diplômes usurpés provenait en théorie de l'université Lyon 1. Donc il va avoir toutes ces plaintes qui vont être instruites, peut-être qu'il va avoir des enquêtes, peut-être qu'il va avoir une mise en examen, peut-être qu'il va avoir un placement en détention provisoire, tout ça on va savoir très vite dans les jours qui viennent.
Merci beaucoup.
Ah pardon.
Oui, on va s'arrêter là, mais... Vous reviendrez, on aura plein d'autres histoires à commenter, plein de choses. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau. C'était passionnant de vous avoir et de comprendre cette affaire, les ressorts qui se cachent derrière. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, on va se retrouver dans un instant et on va revenir à l'affaire Frédéric Péchier. Combien le docteur Péchier aurait-il fait de victimes? La justice a réévalué cette semaine à 32 le nombre de patients qui auraient été volontairement empoisonnés. 13 en seraient morts. Frédéric Péchier, anesthésiste à Besançon, les a-t-il empoisonnés? Oui ou non? Pour tenter d'apparaître comme un sauveur par la suite, son avocat sera notre invité dans un instant. 13h23, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur BFM TV, vous regardez Affaires Suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police, justice. Et au sommaire, un nom qui a défrayé la chronique des semaines durant. Frédéric Péchier, le docteur Frédéric Péchier, anesthésiste de son état, est depuis 2017 mis en examen pour l'empoisonnement de 24 patients, dont 9 mortels. Cette semaine, le procureur de la République a annoncé avoir ajouté à cette liste 8 nouveaux cas d'empoisonnement, dont 4 mortels. comme un pompier pyromane. Frédéric Péchier aurait donc empoisonné au moins 32 patients dans l'espoir de mieux les sauver. Des accusations lourdes en attente d'un procès, des accusations que le docteur Péchier nie en bloc. L'un de ses avocats sera notre invité, Louise Colcombe également, pour tout comprendre avec Dominique. Mais d'abord, les derniers éléments avec Elisa Trana.
L'attente est longue. Trop longue, à la fois pour le mis en examen, pas entendu depuis 1200 jours, selon ses avocats, et pour les victimes du docteur Frédéric Péchier. Voilà 6 ans qu'une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'ex-anesthésiste. 6 ans que les parties civiles attendent des réponses.
On m'a appelé pour me dire comme quoi, éventuellement, que j'aurais eu un empoisonnement. Donc moi, effectivement... Maintenant qu'on m'a, entre guillemets, réveillée, moi, je veux savoir.
On va continuer à faire front commun et puis à essayer de réunir d'autres victimes, celles qui ne nous ont pas contactées.
Cette semaine, 8 nouveaux cas suspects, dont 4 morts, ont été ajoutés au dossier. Frédéric Péchier, 50 ans, était déjà soupçonné d'avoir sciemment empoisonné 24 patients sur leur table d'opération entre 2008 et 2017. 9 sont décédés à la clinique Saint-Vincent de Besançon et à la polyclinique de Franche-Comté.
Le mode opératoire consiste pour l'auteur à polluer les poches de solutés d'hydratation avec notamment des anesthésiques locaux ou du potassium et conduit à un arrêt cardiaque lors de l'opération.
À ce moment-là, selon les récits du personnel hospitalier, le docteur Péchier passait par hasard dans le couloir et injectait au patient un produit pour lui sauver la vie. Un peu comme un héros, ou plutôt un pompier pyromane, analyse les parties civiles avec recul. Le médecin aurait empoisonné les patients de ses collègues de travail pour leur nuire et vanter ses talents de réanimateur. Dans les derniers cas recensés, le mis en cause aurait eu recours à l'adrénaline, une molécule jusqu'ici non retenue dans l'enquête. Frédéric Péchier, lui, a toujours clamé son innocence.
Et évidemment, de nouvelles questions se posent à nouveau avec ces nouveaux dossiers désormais examinés par la justice. On va essayer d'y voir clair avec nos invités. Maître Lee Takedmit, bonjour. Merci bonjour. D'être avec nous. Vous êtes l'un des avocats du docteur Frédéric Péchier. Bonjour. Merci d'être là. Louise Colcombe, bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes journaliste police-justice au Parisien. D'abord, maître, évidemment, on va revenir sur les dernières informations de la semaine. Mais 2017, le début de cette affaire... Instruction toujours en cours, c'est long, c'est très très long. Comment va votre client et comment vit-il cette période ?
Tout d'abord, sur la question de la longueur de la procédure, oui, c'est long, c'est très long, c'est excessivement long, c'est même déraisonnablement long, puisque vous savez que les procédures judiciaires sont soumises à cette obligation de délai raisonnable, et on a déjà, de mon point de vue, dépassé depuis longtemps ce délai-là.
C'est peut-être long parce qu'il faut examiner des nouveaux dossiers, et c'est le cas cette semaine quand on nous dit qu'il y a 8 nouveaux patients qui auraient pu être victimes d'empoisonnement.
J'aurais tendance à vous répondre que vous semblez presque en savoir plus que moi, puisque les informations que vous détenez, elles vous viennent du procureur de la République, issues d'une enquête préliminaire qui donc est couverte par le secret. Donc moi, je n'ai pas d'informations particulières, sauf celles qui ont été données. De ce que j'ai compris, en réalité, ces 8 nouveaux cas n'ont rien de nouveau. Ils ont été puisés dans le vivier très connu de tous les enquêteurs de cette affaire depuis maintenant presque 6 ans.
Et quand on entend une victime tout à l'heure dire « voilà, on attend que d'autres personnes nous rejoignent », ça veut dire qu'on est peut-être encore en train d'attendre 1 an, 2 ans, donc ça va être 2017-2025. Qu'est-ce que vous avez comme possibilité, vous, avocat, avec Randall Schwerdorfer, vous êtes ces 2 avocats, qu'est-ce que vous avez comme possibilité pour dénoncer cette situation, auprès de qui et obtenir quoi ?
Alors, tout d'abord, ce qui est intéressant dans ce qu'a pu dire cette victime, puisque manifestement elle a été victime au moins d'un événement indésirable grave, comme on dit dans le médical, c'est qu'elle apprend à son corps défendant qu'elle serait victime d'une infraction pénale. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Et je trouve ça assez intéressant. Et puis ensuite, une fois qu'on lui a appris qu'elle est victime à son corps défendant, on lui explique qu'il va falloir se fédérer dans un amas de victimes dont on a désigné comme responsable de leur situation de victime le docteur Péchier. Moi, c'est tout cet appareil-là qui me dérange le plus. Comment est-ce qu'on va faire pour se sortir de cela ? On va essayer, nous, pour le compte, puisque du côté de l'accusation, on prend quelques largesses avec le droit et la procédure pénale, on va essayer de s'appuyer sur le code de procédure pénale qui nous donne la possibilité d'essayer, si ce n'est de faire accélérer l'instruction, au moins d'essayer de faire en sorte qu'elle soit clôturée sur une situation qui va être figée. Pour aller vers un non-lieu dans un premier temps, parce que de mon point de vue, avec les éléments dont dispose la justice, c'est un non-lieu que devrait obtenir notre client. Et si procès il doit y avoir, qu'il y ait procès. On ira expliquer ce qu'on a expliqué, et surtout, on ira écouter ce que l'accusation a à nous servir.
Alors justement, Louise, vous qui connaissez bien ce dossier, que dit l'accusation ? Finalement, que reproche-t-on au docteur Péchier ?
On lui reproche d'avoir voulu, par malveillance et par vengeance, d'avoir utilisé les patients de ses collègues comme des armes en réalité. D'avoir à travers eux réglé des comptes parce qu'il y avait énormément de tensions qui régnaient dans cette clinique, et y compris dans la polyclinique de Franche-Comté qu'il a fréquentée très rapidement en 2009, où il y a eu aussi des cas. Voilà, c'est un faisceau, c'est une chronologie qui, quand elle est plaquée sur la chronologie des événements indésirables graves, donc ces complications, crée un puzzle très intéressant en fait. On se rend compte avec ce kaléidoscope qu'on peut en déduire un motif très très récurrent et un mobile profondément psychologique. Et ensuite...
Lequel ? Vous pouvez nous expliquer ?
Alors, il y a des conflits très importants, par exemple, sur la répartition des blocs opératoires. C'est l'activité qui rémunère le plus, en fait. Et ça, c'est j'imagine, classique dans les cliniques, mais il y a eu des proportions qui ont été prises assez impressionnantes, semble-t-il, avec des échanges de mails houleux, des réunions avec des portes qui claquent, et le docteur Péché n'était pas le dernier à se plaindre de cette répartition qui était faite. Et puis, il pouvait être un peu menaçant. On sait qu'il y a eu un peu des choses qui ont été dites dans le dos de l'une ou de l'autre. Et il y a par exemple ce cas très intéressant qu'on avait soulevé dans Le Parisien d'une consoeur dont il avait dit qu'il voulait plus ou moins se débarrasser. Et cette dame-là a accumulé 7 EIG en l'espace de 6 ans, ce qui est du jamais vu.
Il faut expliquer de quoi il s'agit.
Un EIG, c'est ce que disait Maître Taquedmit, ça s'appelle un événement indésirable grave, c'est le terme médical pour une complication. Normalement, c'est un ou deux dans une vie, dans une carrière. Cette femme-là, elle en a cumulé 7 en l'espace de 6 ans, y compris un cas en ophtalmologie qui est totalement incompréhensible.
Louis, ça veut dire que quand elle en a accumulé 7, elle est elle-même médecin.
Anesthésiste.
Elle va vivre dans son métier de médecin 7 événements graves, et on soupçonne le docteur Péchier d'être à l'origine de ces 7 événements graves, c'est ça ?
Tout à fait, d'accord. Pour la faire partir à la retraite plus tôt, ce qui est finalement arrivé parce que ça devenait être très intemporel.
D'accord. Maître, les relations du docteur Péchier avec ses collègues, c'est effectivement un des points sur lesquels on s'est beaucoup interrogé depuis le début de cette affaire. Qu'est-ce qu'il dit sur ce point ?
Il dit que c'est des relations tout à fait classiques entre médecins dans des structures comme celle-ci. Moi, je travaille dans des dossiers de droit médical depuis des années. Il y a des difficultés dans toutes les structures. Et j'en ai pas, moi, pour ma part, noté plus à l'étude de ce dossier que dans les autres structures dont j'ai été le témoin du fonctionnement.
Aujourd'hui, il continue à dire qu'il n'a absolument rien à voir.
Rien. Rien du tout. Rien du tout. Et puis, franchement, ça fait 5 ans que l'instruction est ouverte. Ce serait quand même le diable si on n'arrivait pas à trouver un élément suffisamment solide pour faire en sorte que on puisse organiser un procès. Enfin, il y a des victimes, elles attendent un procès, elles aussi.
Comment explique-t-il tous ces problèmes qui se sont posés dans les cliniques qu'il fréquentait ?
Alors, déjà, il n'y a pas plus non plus de problèmes dans ces cliniques qu'il fréquente que par ailleurs. C'est-à-dire, c'est simplement ce qu'a évoqué tout à l'heure Louise Colcombet lorsqu'elle disait « c'est un puzzle, c'est un puzzle, mais un puzzle, c'est un jeu ». Le docteur Péchier, ça fait 5 ans qu'il ne joue absolument pas, voyez. Et puis le puzzle, c'est pour les amateurs. Moi, je préfère qu'on fasse du sur-mesure, vous voyez, quelque chose d'un peu professionnel, et on en est très loin dans ce dossier.
Maître, on ne peut pas imaginer que ça se passe dans... Vous dites, ça se passe à peu près partout pareil.
Les chiffres ne disent pas
non,
ça.
Non, c'est pas possible.
Louise, peut-être un élément sur les chiffres.
Il y avait le nombre d'EIG à la clinique Saint-Vincent était au-dessus des normes nationales, bien au-dessus. Et d'ailleurs, les médecins interrogés s'en sont rendus compte au moment où en fait on les a confrontés, en prenant un peu de recul. Ils se sont dit, effectivement, c'est vrai qu'on n'avait pas pris la mesure de l'importance que ça avait. Et donc, non, il y avait quand même quelque chose qui était pas de l'ordre statistique qui était anormal, et notamment sur une complication gravissime qui s'appelle le Takotsubo, qui est d'une prévalence rarissime et qui s'est produit, qui a été suspecté ou retenu dans 15 cas sur 8 ans. Ça, c'est du jamais vu, je pense.
Maître, je te laisse répondre.
Oui, effectivement, on navigue dans le milieu de la statistique. Mais le judiciaire, surtout au criminel, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Il faut que chaque cas puisse être répertorié, analysé, disséqué. Et dans ce dossier, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans cette idée, à chaque fois, d'essayer de faire des petits groupes. Alors là, on me dit, il y a eu 15 cas de Takotsubo. Il n'y a rien dans le dossier qui vienne démontrer ce diagnostic-là.
Mais
c'est évoqué.
On n'a aucun élément de réponse aux analyses qui ont été faites sur certains patients. Et on voit les taux de potassium, par exemple, qui ont explosé et qui sont totalement anormaux.
Alors, sur certains dossiers, effectivement, il y a des éléments médicaux, il y a des éléments chiffrés qui démontrent qu'il y a eu des difficultés. D'abord, effectivement, s'il y a un événement indésirable grave, c'est que ce n'est pas un fonctionnement dans l'ordre de la normale. Bon, après, la vraie question, c'est est-ce que ça dénote une malveillance ? C'est la première question. Et ensuite, qui commettrait cette malveillance ? On nous explique maintenant qu'il y a 32 cas. Sur ces 32 cas, combien peuvent être répertoriés de façon certaine comme relevant d'une malveillance ? Pour ce que moi j'en sais, peut-être deux ou trois. Maintenant, la question est de savoir qui est à l'origine de cette malveillance. Et quand on voit ce qui a conduit au docteur Péchier, bah effectivement, c'est un puzzle, ça fait sourire.
Alors c'est vrai que dire « il passe à proximité à chaque fois »,
c'est faux.
C'est pas un événement, enfin en tout cas, c'est pas un élément probant.
Bah, ça pourrait l'être déjà si c'était vrai de façon scientifique. Vous avez 32 cas. S'il est rapporté la preuve que sur ces 32 cas, il était présent et qu'il est passé soi-disant fortuitement, ouais, etc. Bon, oui, vous savez, comme on dit, de trop de coïncidences tue le hasard. Ouais. On n'est pas du tout là-dedans.
Et
pas
c'est
du
faux
tout.
Alors, c'est faux.
Ben oui, le problème, c'est qu'on joue plus au petit bonneteau dans ce dossier qu'à une analyse qui serait une analyse. En plus, on est en matière médicale, vous voyez, il y a quand même un aspect scientifique qu'on ne peut pas éluder comme ça, en essayant de trouver les vraisemblances qu'il pourrait y avoir, etc. Oui. Tout ça, c'est une construction intellectuelle. Et je trouve que c'est dommage quand on voit les conséquences pour les victimes et pour le docteur Péchier.
Qu'est-ce qui aujourd'hui plaide en défaveur du docteur Péchier ?
Le nombre de cas, c'est vrai que la défense le dit, mais c'est une donnée objective. S'il est renvoyé vers un procès avec autant de cas, ça va être compliqué. En défaveur, il y a notamment le cas pivot, en fait, hein, celui de janvier 2017 de Sandra Simard qu'on a vu dans le reportage, et pour laquelle toutes les poches d'injection ont été saisies. Ce qui n'est pas habituellement fait, parce que quand on pense problème, on pense erreur médicale. Donc on saisit les poches de médicaments. Et donc les solutés d'hydratation qui est cette perfusion un peu neutre, ouais, qu'on vous place au départ, elle n'était pas saisie habituellement. Et c'est avec le cas de Sandra Simard, on va retrouver cette dose 100 fois thérapeutique de potassium, qu'on va se rendre compte que c'est sans doute par là que des choses ont été injectées. Et puis là, M. Péchier, il a été en fait désigné, parce que dans ce cas-là, il l'a sauvé, et très très vite, en posant un diagnostic dont tout le monde s'accorde à dire qu'il n'était pas possible de le poser à ce moment-là. Donc en fait, son talent presque trop magique l'a perdu dans ce cas-là. Et si sur ce cas-là, il est condamné, devant une cour d'assises, ça peut être compliqué parce que le doute va s'instiller sur tous les autres cas.
Maître, je vous laisse le mot de la fin pour conclure. Le combat pour vous continue. Frédéric Péchier tient pour l'instant, physiquement, moralement ?
Bah oui, puisqu'il est toujours là.
Après une tentative de suicide.
Oui, gravissime. Vous savez, c'est quelqu'un qui avait une vie dont beaucoup rêveraient et qui, du jour au lendemain, s'est retrouvé cloué au pilori. Aujourd'hui, il ne travaille pas. Il est dans une situation où il a l'impression que personne n'écoute ce qu'il a à dire, où la loi du nombre devient la loi du plus fort et impose la situation qu'il est en train de vivre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vit actuellement avec ces 8 nouveaux cas. Ça résonne comme un écho assez sordide par rapport à ce qu'a dit Louis Colcombet. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de preuves sur 24, mais lorsque vous lui demandez ce qui pourrait nuire au docteur Péchier sur le plan judiciaire, elle vous répond le nombre. Ben, regardez ce que fait le parquet. Il n'en a pas suffisamment, et il en ajoute 8 autres.
Merci beaucoup. Merci à vous deux d'être sur le plateau d'Affaires Suivantes. Merci, Louise. Merci, Maître. Évidemment, on continue à suivre ce dossier. Et le docteur Péchier est le bienvenu, évidemment, pour nous parler et nous donner sa version, évidemment, des faits. Tout de suite, les invités de la semaine. Ans de mystère et aujourd'hui dans un livre des documents qui changent peut-être tout. Il y a 37 ans, Philippe de Dieuleveux, star de la télé pour son rôle d'animateur de la chasse au trésor, disparaît lors d'une expédition aux Zaïre. À peine disparu, les autorités aéroises françaises vont tout de suite affirmer qu'il s'agit d'un accident, un empressement qui pose question. Cette version sera maintenue, martelée 37 ans durant et ce malgré de nombreux doutes. Aujourd'hui, l'affaire apparaît sous un tout autre jour et s'il s'agissait en fait d'une bavure de l'armée zaïroise couverte par les autorités françaises. C'est ce que tend à prouver les éléments d'enquête révélés par le neveu de Philippe de Dieuleveux. Il sera notre invité dans un instant, mais d'abord, retour en 1985 avec Elisa Trana.
J'y vais ou j'y vais pas ?
Il s'invitait chez les téléspectateurs chaque dimanche soir de 1981 à 1984 avec sa chasse au trésor. Vêtu de sa combinaison rouge, sautant d'un hélicoptère ou escaladant des montagnes, Philippe de Dieuleveux fait rêver les Français en quête d'aventure.
Vous avez raison, stop.
Et devient ainsi l'une des vedettes du petit écran. En 1985, l'animateur accepte de participer à l'aventure Africa Raft. L'objectif, traverser l'Afrique équatoriale d'est en ouest. Un périple de 3000 km, non sans risque puisque le fleuve Zaïre est l'un des plus dangereux au monde pour son débit.
Ça rassemblait ses passions, l'Afrique, le challenge sportif, le reportage, l'image.
Le mardi 6 août, dernière étape de l'expédition. L'aventurier, comme 6 autres participants, enfile son gilet de sauvetage et embarque à bord du Françoise pour dévaler les rapides d'Inga, réputés invincibles. Mais après leur départ, silence radio. Des témoignages locaux divergent ou restent volontairement flous. L'embarcation de Philippe de Dieuleveux est retrouvée intacte. Les autorités françaises et zaïroises concluent à la noyade.
L'hypothèse de l'accident est la plus vraisemblable.
Ah oui, c'est la quasi-certitude.
Un corps est alors renvoyé à la famille. Un corps sans tête, sans main, sans sexe et sans viscères. Une contre-autopsie révèle qu'il ne s'agit pas de Philippe de Dieuleveux. Les militaires français et zaïrois auraient-ils menti pour dissimuler une bavure? La famille de Dieuleveux continue d'enquêter.
Quelle est donc la vérité? On va essayer d'y voir clair avec Alexis de Dieuleveux. Bonjour, merci d'être avec nous, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes le neveu donc de Philippe de Dieuleveux, auteur de Noyade d'État, la mort de Philippe de Dieuleveux, édition enrichie avec des nouveaux documents, le dossier d'enquête, des téléx, on va en parler, c'est plus que troublant. Jean-Alphonse Richard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, journaliste, présentateur de l'heure du crime sur RTL. Vous connaissez cette affaire parfaitement. On va se replonger. 85, on vient de voir les images, les deux rafts qui partent, Philippe de Dieuleveux dessus, sur ce fleuve, sur ces chutes, un gars. Et puis tout d'un coup, plus rien, plus personne ne répond aux radios. Et il va y avoir deux hommes sur le bord de la rive qui sont là, parce qu'on va reprendre avec Dominique, on va lister tout ce que vous nous apprenez dans ce livre. Donc je voudrais qu'on reprenne les éléments les uns derrière les autres. Donc ils sont partis, plus de nouvelles. Il y a deux hommes, le docteur Laurenceau et puis Jean-Louis Amblard, des amis de Philippe Dieuleveux. Ils sont sur le côté, ils vont descendre un petit peu pour essayer de voir s'ils aperçoivent quelque chose puisqu'il n'y a plus de nouvelles. Et là, le premier élément troublant que vous révélez dans votre livre, c'est qu'ils vont tomber sur deux soldats zaïrois qui vont leur dire, avant même de se parler, vous allez nous le raconter, on n'y est pour rien, c'est ça?
Exactement, deux soldats. Alors, il faut dire que les deux rescapés ont mis du temps à rejoindre la rive. Il s'est passé plusieurs heures. Donc pendant ces heures, il s'est passé un drame à Inga. Et quand les deux rescapés arrivent sur les berges, ils arrivent au niveau du barrage d'Inga. Et là, ils voient des gendarmes. Et les gendarmes, tout de suite, leur disent...
Zaïrois.
Gendarmes zaïrois, absolument. S'il est arrivé quelque chose de fâcheux à vos amis, nous y sommes pour rien. C'est déjà très troublant. Effectivement, l'ambiance était électrique. Et les deux rescapés savent et sentent qu'il s'est passé quelque chose ce matin-là à Inga. On parle d'une thèse officielle d'une noyade accidentelle liée à la nature. Il n'en est rien. Et ça fait maintenant 37 ans... qu'on nous ment, qu'il y a ce mensonge. Et je me bats aujourd'hui, et aussi grâce à des personnes qui m'accompagnent, les médias, vous, merci, pour démentir cette thèse officielle. Et les éléments sont concrets, sérieux
et
réels.
Avant de suivre, vous avez fait une enquête, on a été bluffés, vous avez fait une enquête incroyable. Vous êtes allé exhumer des documents, on va y revenir, mais c'est vraiment fantastique. C'est un boulot de reporter et d'enquêteur.
Et la démonstration, Jean-Alphonse, peut-être même avant de rentrer dans le détail, il y avait ce premier élément des deux militaires déjà qui, comme premier réflexe, disent « Nous, on n'a rien fait, s'il s'est passé quelque chose qui est assez troublant. » On va reprendre les autres, mais votre analyse générale, Jean-Alphonse, tout, quand on lit ce livre, tous les éléments nous font dire « Mais comment peut-on dire depuis 37 ans que c'est un accident ?»
Vous savez, il y a quelque chose de très troublant dans cette histoire, c'est qu'une scène de crime ou une scène supposée de crime, il y a toujours un climat qui s'impose au début. Et le climat qui s'impose dans cette affaire, et c'est constaté par tous les témoins, c'est la suspicion et c'est la méfiance. Donc vous avez ces deux rescapés, effectivement, qui Laurenceau, Amblard, qui sont là, qui vont arriver, et donc ils rencontrent ces militaires qui disent « on n'y est pour rien ». Ensuite, ils vont dire « ben nous, on va aller au... Il faut qu'on aille au barrage, il faut qu'on aille voir ce qui se passe. » Et on va leur dire « Non, non, vous n'allez pas aller au barrage. » Et pendant plusieurs jours, 3-4 jours, ils vont être retenus dans un hôtel, sans contact extérieur.
Mais ça, c'est fou, parce qu'ils n'y sont pour rien. Ils n'ont rien à... On ne leur reproche rien. Ils cherchent des amis,
sans qu'ils sachent,
et on les isole.
Sans qu'ils sachent ce qui se passe, ils sont isolés. Et cette espèce de climat de méfiance et de suspicion, c'est ça qui est troublant dans cette enquête. Alors, sans faire de théorie du complot ou quoi que ce soit, on peut quand même s'interroger. Parce que tous les témoins qui vont arriver par la suite, venant de Paris, etc., y compris des militaires, vont se heurter à cette espèce de secret et cette espèce de méfiance.
Et autre élément troublant, hein, quelques jours après, le Françoise, c'est l'embarcation dans laquelle était Philippe de Dieuleveux. Il y avait un autre bateau qui s'appelait le
Godelive.
Ce bateau est retrouvé intact Hein, c'est un raft, on dit ce que c'est qu'un raft, deux énormes boudins avec au milieu une partie en métal, en inox, qui fait 5 mètres de long, 1,40 m de large. Le bateau est retrouvé intact, sans les personnes à bord.
Exactement, il est retrouvé intact et il y a des témoignages. Il y a un ingénieur américain qui est sur le barrage et il voit passer ce raft avec des occupants à bord. Le raft va accoster un peu plus loin sur la rive gauche. Il a une antenne. Il faut savoir que l'expédition teste un poste militaire. Ce n'est pas donné à n'importe qui de tester du matériel militaire. Il le faisait et cette antenne est intacte. Donc le raft ne s'est pas retourné. Et il y a de nombreux témoignages qui parlent de trois hommes autour de ce raft.
On le retrouve vide, mais l'ingénieur dont vous parlez va faire des photos.
Absolument, il va prendre des photos. Il y aura des photos que je n'ai pas vues.
Où elles sont ?
Elles ont été remises à l'épouse de Philippe. L'ingénieur les a remises à l'épouse de Philippe, mais je n'ai jamais vu ces photos.
Elle veut pas vous les donner ? Elles existent encore ou...
Je l'ignore. Je l'ignore.
Ce serait quand même un élément.
Je ne les ai pas cherchés. J'ai beaucoup d'autres éléments. Et il y a beaucoup de témoignages ce jour-là qui voient effectivement des fois des blancs autour de ce raft.
On ne retrouve donc pas le corps de Philippe Dudeleveux, des personnes qui étaient sur ce raft. Le raft est intact. Et pourtant, on va vous présenter quelques temps après un corps. Alors, dans quel état ce corps, Jean-Alphonse, et dire c'est Philippe Dudeleveux ?
Alors ça, oui, c'est exactement un mois après la tragédie. Effectivement, on repêche un corps qui est complètement démembré. Il n'a plus de tête, etc. Il a plus, quasiment plus de jambes et tout. C'est une espèce de moignon très difficile à identifier. Tout de suite, le légiste local va dire c'est le corps d'une personne noire. C'est-à-dire c'est le corps de quelqu'un qui habite cette région. Et dans la foulée, le consul de France sur place va dire « c'est Philippe Dudeleveux ». Ils vont être très affirmatifs. La famille va être avertie immédiatement que c'est Philippe Dudeleveux. Alors la famille ne va pas y croire. Le corps va être rapatrié à Paris, au sein de l'Institut médico-légal de Paris, avec le docteur Déponge qui va analyser ce corps, qui va l'expertiser et qui va dire « mais non, pas du tout, il n'y a rien qui cadre. C'est pas du tout le corps de Philippe Dudeleveux ». Alors, il y a quelque chose de curieux, c'est que pourquoi on affirme tout de suite qu'il s'agit c'est du sûr. Corps de Dudeleveux et on le dit à la famille, hein, préparez-vous, l'acte de décès est signé, il est en cours d'être signé, etc.
C'est votre père Jean qui est prévenu. On a d'ailleurs le téléx que vous avez publié dans votre livre, je ne sais pas si on peut le voir, si Marion Bordier peut nous le montrer. On a ce téléx, hein.
Tout à fait, un
vous téléx. Regardez, c'est fou. Quoi,
qui
c'est...
dit clairement que le corps de votre frère a été retrouvé et a pu être identifié. Mais on parle d'un corps effectivement qui n'a pas de tête, qui n'a pas de sexe, qui n'a pas de main, qui n'a pas de viscère. Pas de viscère, pas d'extrémité de pied. Quand ce corps arrive à l'IML de Paris, donc à l'Institut médico-légal de Paris...
Six orteils à chaque pied.
Alors ça, c'est un autre corps.
C'est un autre corps. Ouais, alors j'ai mélangé,
les médecins à Paris étaient incapables, au premier regard, de dire s'il s'agissait d'un homme, enfin d'une femme, d'un blanc ou d'un noir. Voilà ce qu'on a remis à la famille. C'est un scandale. Et on vous dit, ce corps est Philippe Dudeleveux, mort, noyé. Ce que je peux vous dire sur ce corps, c'est que la personne qui a mis un nom, eh bien, une personne qui a mis un nom sur ce corps, qui l'a identifié. Mais cette personne, j'en parle dans le livre, n'a aucun lien avec le service, avec le milieu médical. Aussi bien, c'est pas côté zaïrois, c'est pas côté français, c'est pas un médecin qui a mis un nom. C'est une personne qui n'a pas ce lien médical, mais qui a un lien avec les services secrets français. Alors, que viennent faire les services secrets français, la DGSE, dans cette histoire de faux cadavres présentés à la famille, si ce n'est pour étouffer une affaire, une affaire sensible, dérangeante? Et peut-être que derrière l'expédition Africa Raft plane l'ombre des services secrets.
On va aller vers l'hypothèse la plus probable. Je voudrais juste avant qu'on dise un mot dans tous ces éléments troublants. On a vu un des téléx. C'est une des richesses de ce livre et de ce livre enrichi que vous produisez. Il y a des téléx officiels entre les autorités françaises et zaïroises qui vont dans les deux sens. Extrêmement nombreux, qui pour un accident peut sembler assez étonnant. Et il y a des choses dans ces téléx où... quasiment, il y a l'aveu que ça n'est pas qu'un accident.
Exactement. J'ai mis la main sur les archives diplomatiques de l'ambassade de France à Kinshasa. Et là, on voit tous les téléx qui ont été échangés ce mois d'août 85. Alors qu'au même moment, on dit à mon père, votre frère est mort noyé, il n'y a pas à discuter. C'est une noyade accidentelle. Et si vous voulez, j'ai trois lignes. Un téléx qui date du 18 août, qui est envoyé de Kinshasa aux affaires étrangères. Et là, ce téléx dit, c'est une première, ce que je vous dis, ça n'a jamais été lu. L'hypothèse d'une bavure des forces zaïroises n'est pas pour autant à écarter. On se souvient que les éléments de protection du barrage d'Inga ont d'abord cru avoir affaire à un commando de mercenaires et que des mesures avaient été prises en conséquence. Rien ne dit qu'allant jusqu'au bout de leurs consignes, les patrouilles envoyées en reconnaissance n'aient pas systématiquement anéanti ceux qui étaient supposés être des ennemis infiltrés.
On rappelle, Alexis, que le barrage d'Inga, à ce moment-là, fait l'objet de menaces, que c'est un lieu stratégique, industriel, et que les Aérois sont sur le bord du fleuve, l'armée, et surveille le fleuve. C'est à ce moment-là que sont censés passer les deux bateaux. Et vous parlez donc dans votre livre du chiffre. Le chiffre, c'est le décryptage des transmissions. Vous avez eu accès au Telex, vous êtes allé les chercher à Bordeaux, c'est ça, à Nantes ?
À Nantes, au centre des archives diplomatiques de Nantes.
Et vous avez réussi à aller... Alors, comment vous avez fait pour les avoir ?
Il a fallu déjà interpeller les parlementaires, députés, sénateurs, et il y a un député, le député de l'Oise, Pierre Vatin, qui a accepté de poser une question écrite au gouvernement, qui était publiée dans le journal officiel, où il demande l'ouverture des archives sur cette affaire. Il y a de nombreux témoignages sur cette affaire, il manquait des documents concrets des archives.
Avec ces Telex, avec aussi le témoignage entendu par le FBI de deux, un ingénieur américain, un pilote, Jean-Alphonse, quelle est l'hypothèse qui se dessine ? Que se serait-il passé ?
Alors, l'hypothèse qui se dessine, et qui est la plus simple, c'est qu'effectivement, ce jour-là, l'armée zaïroise est en alerte, il y a eu des patrouilles, etc., parce qu'on leur a signalé qu'il y avait possiblement le passage de mercenaires près de ce barrage stratégique. Inga, c'est un énorme barrage qui alimente quasiment pas presque tout le pays, mais en électricité. Et ce qui s'est passé, le convoi en question n'a pas été signalé à temps, c'est-à-dire le passage de ce raid n'a pas été signalé à temps. Et il est très probable que les militaires aient tiré, tout simplement. Il y a un témoignage qui est très important, c'est celui de l'ingénieur américain. Parce que lui, il est sur le barrage ce jour-là. Et qu'est-ce qu'il voit ? Alors, il fait un bruit épouvantable, un barrage. Donc, il y a des casques anti-bruit, tout ça, etc.
Le deuxième fleuve le plus puissant du monde.
Exactement. Il n'entend rien en sonore, mais il voit. Et en visuel, il voit sur l'autre rive du barrage deux camions de militaires zaïrois qui s'arrêtent, des militaires qui descendent et qui mettent en joue un objectif, lequel, on ne sait pas. En tout cas, ils mettent en joue vers le fleuve. Il ne sait pas s'ils ont tiré ou pas, mais les fusils étaient prêts à être tirés, les fusils mitrailleurs. Et puis, deuxième témoignage qui est quand même troublant, c'est le pilote d'hélicoptère américain aussi. Ce sont des personnes sensées, ce n'est pas des racontards, qui lui va dire, moi j'ai vu plein de douilles récentes, ça c'est important, le détail est récent, des tas de douilles récentes dans l'endroit où on s'est posé, près de la carcasse du Godlieb, c'est-à-dire l'un des deux bateaux qui a été détruit.
Quand on entend tout ce que vous nous dites l'un et l'autre, effectivement, le scénario apparaît très différemment. Pourquoi ? Et qu'attendez-vous aujourd'hui ? Ça sera le mot de la fin. Pour la mémoire de Philippe Dieudeleveux, je le disais, animateur préféré des Français, star de la télé, pourquoi a-t-on couvert tout cela ?
C'est une affaire qui est très sensible. Vous avez une affaire qui implique des politiques, des diplomates, des militaires, les services secrets français, les relations franco-africaines. Vous avez là une affaire explosive, peut-être sous une opération des services, une opération peut-être de renseignement, de repérage, qui a mal tourné. On parle de la présence de militaires. Pourquoi les militaires sont en place ? Parce qu'ils ont été alertés. Ils ont été alertés par un télégramme qui arrive de Paris pour dire qu'il y a une menace d'attaque sur le barrage. Qui envoie ce télégramme ? Il part du Quai d'Orsay ou de la cellule Afrique de l'Elysée. Il part d'un très haut niveau. Mon père parle d'une trahison. Cette expédition aurait été trahie. On envoie ce télégramme. Les militaires zaïrois se mettent en place. La bavure a lieu. Là, on n'en veut pas aux militaires aériens.
J'aurais juste 30 secondes. Dire, vous avez rencontré Roland Dumas, qui à l'époque était ministre des Affaires étrangères, qui vous a dit que la France avait couvert cette affaire à l'époque parce qu'elle ne voulait pas ternir la réputation de l'armée aéroise. On n'en dit pas plus, parce qu'on est arrivé au bout de cette émission, mais lisez ce livre parce qu'il est vraiment extraordinaire.
Et vous découvrez qu'il existe aussi un coffre où il y a peut-être la vérité à tout cela. Un grand merci d'être venu sur le plateau. Merci Jean-Alphonse. Bon courage dans ce combat qui n'est pas terminé. On renvoie évidemment à votre livre. Merci Dominique. On vous souhaite un bon dimanche et on vous donne rendez-vous ce livre, Noyade d'État. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Affaires Sûres.
Et on regarde, faites entrer l'accusé ce soir.